jamais vu crever autant de monde.
Libre Radio, la radio des survivants.
Voilà, donc nous sommes en direct depuis notre nouveau studio, le studio 99, on appelle ça comme ça parce qu'il siège au 99 de la rue de Lyon. C'est en fait l'espace quartier des Charmilles dans lequel qui nous accueille, qui nous contient. Un espace quartier dont on a déjà parlé et bien sûr par rapport auquel nous serons amenés à reparler puisqu'il a déjà un surgissement 10 ans en arrière assez singulier, assez particulier. Ce sont les habitants effectivement qui se sont appropriés cet espace, ces espaces qui étaient dévolus normalement au commerce de masse. Et eh bien, ces habitantes et habitants non contents de voir un quartier extrêmement dense par ailleurs, n'être entouré que par des supermarchés, des grands commerces, hein, là, on ne parle pas de commerce de proximité ou quoi, eh bien, se sont dit non, il nous faut un espace à nous dans lequel on puisse y pratiquer eh bien, des activités associatives, toutes ces choses-là. Et alors voilà, une pétition est née de cela. Et puis de fil en aiguille, ça a pris du temps parce qu'effectivement, c'est quand même un immeuble de 3 étages assez volumineux. Eh bien, au bout du compte, les habitantes et habitants ont triomphé et cet espace est désormais en leurs mains. C'est-à-dire qu'ils reprennent leurs affaires en main et dès lors, il y a une quarantaine d'associations, un peu plus, qui y siègent et y exercent leurs activités, dont nous, Libre Radio, et dont plein d'autres. On pourrait citer SOS Enfants avec lesquels nous partageons les locaux. SOS Enfants, mot à mot, etc. Il y a également du breakdance. Il y a vraiment des choses extrêmement diverses les unes des autres, mais qui ont comme point commun d'animer un quartier résidentiel, dense et extrêmement cosmopolite, dans lequel certaines tensions, il faut le dire, surgissent et que donc il est bien de pouvoir avoir ce type de lieu-là où les gens eh bien, interagissent. Et puis ça permet également à la crèche d'exister, à la Villa Yoyo hein, qui fait de l'accueil libre pour les enfants. Et nous sommes face à la ludothèque en 2-3 planètes. Voilà. Alors, au sommaire de cette émission aujourd'hui, tout d'abord, nous sommes en direct de maintenant jusqu'à 17h. Ça, c'est pour le direct. Si l'émission dépasse un peu, eh bien, la suite sera podcastée. Je dis ça parce que nous avons des invités aujourd'hui et peut-être qu'effectivement, à force de bavarder, eh bien, nous dépasserons le temps imparti habituellement. Alors, comment ça se passe? Nous allons commencer en parlant avec les Happy Clowns, puisque la directrice est parmi nous, la directrice qui est elle-même d'ailleurs une clown.
Oui, tout à fait.
Ah, très bien. Alors, vous allez vous présenter plus en détail dans quelques instants, dès qu'on aura commencé. En tout cas, nous, on est ravis de vous recevoir, parce qu'effectivement, ça fait des années que l'on suit de loin comme ça ce que vous faites hein, dans les hôpitaux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous paraît fantastique. J'imagine que ce sont des moments extrêmement intenses que vous vivez quand vous êtes clown en action.
Oui, je commence l'histoire.
Mais alors. Allons-y.
Je commence l'histoire d'Hopi Clown. Donc elle a démarré il y a plus de 20 ans maintenant. Moi, j'ai eu la chance de faire partie de la sélection des clowns, donc des 4 clowns qui ont été sélectionnés. On avait été sélectionnés par le Rire Médecin, en fait, qui avait déjà cette pratique à Paris. Et c'est eux qui sont venus, quelque part, faire les castings. Enfin, on a aussi été faire le casting à Paris. Et qui sont venus pendant un mois, c'était Caroline Simons, qui est la fondatrice du Rire Médecin, et Laurie Leching, qui sont venus pendant un mois former 4 clowns sur le terrain. Mais avant ça, en fait, l'idée est venue, bah, j'aime le rappeler, en fait, d'infirmières, de personnes à l'intérieur de l'hôpital, de la directrice du moment qui était Madame Souter, d'assistants sociaux, qui avait entendu parler du projet du Rire Médecin et qui s'était dit « Mais pourquoi pas ça sur Genève ? On a besoin de ça pour cet hôpital. » Et ils ont contacté Caroline Simons, qui était venue faire une conférence au sein de l'hôpital, accompagnée du professeur Assal. Et ils avaient été convaincus qu'un tel projet pouvait avoir lieu à Genève, quoi.
Et alors, après, ça s'est fait relativement rapidement. Le moment où vous parlez pour la première fois de cette possibilité et le moment où, effectivement, concrètement, a lieu la première intervention clownesque, je ne sais pas comment on dit.
Clownesque, c'est très bien.
Y a-t-il eu un délai? Est-ce que ça a été compliqué ou bien est-ce que très rapidement, tout le monde s'est mis en place?
Alors, Disons, c'est comme toute création d'association. Hein. Ben voilà, il faut trouver des fonds financiers, il faut faire des statuts, il faut que les gens se rendent compte, il faut trouver la raison d'être, même s'ils le savaient, de l'association. Il fallait engager Caroline Simons pour venir à Genève, convaincre encore quelques personnes au sein de l'hôpital. Mais je dirais que ce comité a travaillé environ quand même une année et demie avant qu'effectivement il y ait une sélection de 4 clowns pour démarrer sur le terrain. Quoi.
D'accord. Et alors voilà, la première intervention, à quel moment est-ce qu'il survient et comment est-ce que ça se passe?
Alors c'était en 1996. Nous, on avait été engagés, les 4 clowns, on était 3 femmes, un homme. Caroline Simons était là à nos côtés avec Laurie Leshing et nous, on découvrait en fait l'hôpital. Tous, on avait une pratique clownesque déjà importante et théâtrale, mais oui, il y avait une personne qui connaissait assez bien l'hôpital, mais autrement, on était des novices de rentrer à l'hôpital. Et quelque part, on avait les chocottes, surtout rentrer dans un hôpital d'enfants, en tout cas moi, voilà. C'était pas mon pain quotidien. Je crois que je n'étais jamais, pour ma part, en tant qu'enfant, je n'avais pas été à l'hôpital. J'avais D'accord. eu cette chance-là.
Donc c'était à l'unité pédiatrique que vous avez débuté.
Oui. Alors voilà. Eh bien, on s'est tout de suite mis au travail quelque part. Caroline Simons nous a mis dans, je dirais, elle nous a balancé dans les chambres et en disant allez-y, faites ce que vous avez à faire.
Mais vous vous sentiez, je veux dire, vous êtes senti comment à un moment donné, parce que vous l'avez déjà dit un peu en filigrane, mais lorsque l'on pénètre dans une chambre d'enfants malades, est-ce que ce sont des chambres collectives, des chambres individuelles, et puis on sait qu'on entre dans un lieu qui est également quelque part un espace de vie de la personne, et on va y pratiquer quelque chose. J'imagine que ça doit être assez délicat. On doit se dire, mais comment vais-je entrer sans être intrusif? Comment ai-je... Enfin, toutes ces choses-là, ces questions-là qui ont surgi, lesquelles sont-elles?
Oui. Alors, les chambres en pédiatrie à l'hôpital des enfants, c'est au maximum 2. Mais quand il y a les parents qui dorment, par exemple, pour des enfants un peu plus petits, ou voilà, même ils ont leur place aussi dans les chambres. Alors là, on peut dire qu'il n'y a absolument plus de place. Une fois qu'il y a 2 lits de camp et 2 lits normaux, il n'y a absolument plus de place dans la chambre. Donc, c'est quand même des espaces assez exigus. Hein. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de rentrer dans les chambres, on a des transmissions. C'est-à-dire que, ben oui, on arrive en clown, etc. Voilà. Mais on a un moment où on enlève le nez et une infirmière va nous raconter, en fait, les enfants qui sont là, qu'est-ce qu'ils ont. Alors, bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails, mais quand même, on sait leur pathologie. Est-ce qu'ils sont douloureux? Est-ce qu'ils vont plutôt bien? Comment va les parents ou la famille proche? Est-ce qu'ils sont extrêmement angoissés? Est-ce qu'ils attendent une nouvelle? Un diagnostic, ça c'est toujours très bien de le savoir. Voilà. On a l'ambiance aussi qu'il y a autour de cette hospitalisation. Mais de toute façon, une hospitalisation, un enfant hospitalisé, c'est toujours quelque chose de très très délicat et l'angoisse est là. L'angoisse est là, aussi bien de l'enfant que des parents, que de son entourage. Ça, c'est certain.
Bien sûr.
On rentre dans un terrain... alors, en même temps, on a des informations sur les familles, sur les enfants. Quelque part, il faut qu'on les ait, mais il ne faut pas que ça nous paralyse. C'est toujours ce côté qui n'est pas très facile.
Ouais, c'est un peu le fil du rasoir. Hein.
C'est ça. Je dirais que il y a tout un jeu souvent que pour ouvrir la porte. Et on ne sait souvent pas qu'est-ce qui va se passer derrière. Voilà. Alors nous, les portes bloquées, les taper à la porte de diverses manières, attendre qu'on nous réponde, ou alors si la porte est entrouverte, de rentrer comme des furies parce qu'on a senti que dans cette chambre-là, on pouvait rentrer, on pouvait y aller. Voilà. Je dirais que chaque entrée de chambre est spécifique.
D'accord. J'imagine également que les temps sont importants, à quel moment on intervient. J'imagine qu'effectivement, bon, les pathologies pour les enfants peuvent être extrêmement lourdes là aussi. On parlait tout à l'heure hors émission de l'oncologie pédiatrique. Il peut y avoir des soins qui fassent que l'enfant n'est vraiment pas disponible à ce moment-là. Donc j'imagine que ça aussi, c'est quelque chose d'important pour vous de savoir quand et combien de temps vous allez intervenir, sachant effectivement l'endurance et l'état psychique et physique de l'enfant. Quand vous entrez, est-ce qu'exclusivement l'enfant ou les enfants sont seuls ou est-ce que des fois les parents sont présents ?
Alors, si les parents sont présents, ils sont là. Enfin, je dirais, ils sont là. C'est vrai que ben voilà, c'est un hôpital pédiatrique, donc effectivement, il y a beaucoup de parents qui sont là, en tout cas ceux qui peuvent arriver à accompagner leurs parents. Je crois que tout parent souhaite pouvoir au mieux hein, accompagner son enfant dans ces moments difficiles. Mais je dirais que c'est tout aussi important pour les parents que pour les enfants, quelque part. Parce que, quelque part, soit pour le parent de voir rire ou se détendre son enfant, soit pour l'enfant de voir rire son parent, tout d'un coup, ou soit que tout le monde soit pris dans un grand jeu, voilà, qui amène ce qu'on appelle un peu une parenthèse, hein, parce que malheureusement, on ne peut pas oublier la douleur, on ne peut pas oublier le lieu, on ne peut pas oublier de tout ça, mais n'empêche qu'il est tout à fait possible, et plus que tout, de créer des parenthèses ou de jeux d'imaginaire, de mouvement, de mise en lien des gens par notre présence. Et on sait que quand on sort de la chambre, souvent, ça va continuer à parler de nous. Ça va continuer. Oh mon Dieu, mais t'as vu comment ils sont habillés, mais c'est pas possible. Ah non, mais alors, ils sont vraiment ridicules, ces clowns. Voilà, c'est l'occasion vraiment, souvent après notre départ, comme on dit, c'est un petit peu les traces qu'on laisse de notre passage. Alors, le temps, vous me parliez du temps hein, qu'on reste, c'est très variable. Hein, c'est très variable, mais je dirais c'est de quelques minutes à 10 minutes, à 15 minutes, voilà. C'est vraiment des passages, des parenthèses dans les chambres. Des fois, on va repasser deux fois dans une chambre comme ça, parce que voilà, on est pris dans une sorte de jeu, ou peut-être il y a une course-poursuite, ou alors un jeu qui s'était créé fait que ça nous donne l'occasion de revenir dans cette chambre pour dire je ne sais pas quoi, je vois qu'il y a Kaikai en photo là, que Kaikai, c'est fait. Qu'est-ce qui pourrait arriver à ce pauvre Kaikai? Oui, il s'est fait gronder par le docteur et il le méritait, et heureusement, voilà quoi.
Il faut dire également que, enfin, je pense que quelque chose que l'on a tous en commun, c'est le plaisir d'entendre ces rires d'enfants tellement vifs, tellement purs, sincères, cristallins comme ça. C'est quelque chose qui effectivement habite un espace et fait du bien en soi. Mmh. Et ce rire-là, que je trouve exceptionnel également dans ce que vous faites, c'est que après il y a après le souvenir et la répétition, comme vous venez de le dire, du récit qui est fait de cette rencontre. Ça veut dire que les parents, par la suite, même une fois, même la semaine d'après, les parents et les enfants vont pouvoir se remémorer et revoir ce plaisir-là et se reparler d'une certaine manière en dehors justement de ce qui est pesant à l'hôpital, c'est-à-dire eh bien, l'univers qui nous entoure et qui est effectivement extrêmement lourd parce qu'il est également, il doit être comme ça parce qu'il doit être extrêmement, cadré. Il y a des examens à cette heure-là, il y a un soin à cette heure-là, voilà, là on ne peut pas transiger avec ça. Et là, ça nous permet de suspendre le temps et d'aller dans les imaginaires, et ça j'imagine que ça va être un pur plaisir pour vous également. Comment ça se passe? Ce sont des scènes nettes quand vous arrivez, c'est de l'impro total. Vous avez quand même des petits scénarios que vous avez en tête, certaines astuces pour si tout d'un coup l'enfant, on sent que ben voilà, l'enfant, comme vous l'avez dit, est en souffrance. Voilà, vous avez des petits trucs comme ça qui vous permettent d'entrer plus facilement en interaction avec lui.
Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on travaille toujours à deux, toujours en duo. C'est vraiment, on reprend là la tradition du clown blanc et du clown Auguste. C'est un rapport de clown qui nous donne beaucoup, beaucoup de jeu. Notre outil est effectivement l'improvisation. Mais comme on dit toujours, l'improvisation, ça ne s'improvise pas. Ça veut dire qu'en amont de rentrer dans les chambres, en amont de travailler à deux, on a beaucoup de temps de répétition, de formation en dehors de l'hôpital pour effectivement travailler l'écoute, pour travailler des systématiques de jeu, pour travailler le regard sur l'extérieur, d'adapter notre jeu à la situation. C'est tout, je dirais, l'art de l'improvisation qui devient une histoire alors qu'au départ, on ne l'a pas prévu. Je dirais que quand on arrive à créer des histoires, soit avec l'enfant spectateur, suivant comment il est mieux être spectateur, mais aussi l'enfant qui peut devenir acteur de notre jeu et devenir vraiment, même de prendre beaucoup de pouvoir dans notre jeu. Ce qu'on aime, c'est qu'effectivement, l'enfant, quelque part, sort gagnant de notre jeu. En se disant que c'est vrai que c'est un lieu où on n'est pas souvent gagnant, où on n'a pas beaucoup de choses à décider, où on ne peut pas tellement dire non. On doit prendre les médicaments, on doit accepter les soins, on est dans une, malgré tout, style de soumission quand même. Bon, pour aller bien, hein, c'est rien contre le système médical, c'est pour aller bien. Mais je dirais que l'occasion qu'il y ait les clowns, ça peut être l'occasion de dire qu'on est bête, que nous on est cons, qu'on est mal habillés, qu'il y en a un, il est méchant avec l'autre. Voilà, tout ce que provoque en fait le clown, quoi.
Et les docteurs alors, et les infirmières et les infirmiers, et le corps médical, est-il d'une certaine manière, enfin il l'est automatiquement parce que vous êtes là et qu'on vous voit, on vous identifie. Mais voilà, est-ce que là, il y a quelque chose qui se trame également, ou bien, bon, ils ont quand même leur travail, ils ont quand même d'autres chats à fouetter. Comment ça se passe avec eux, avec elles et eux?
Alors, avec les infirmières, avec le personnel aussi de ménage, hein, y a énormément de monde qui circule à l'hôpital. Dans la mesure du possible, le clown rencontre tout le monde et va tenter de créer du jeu avec tout le monde en étant très attentif, effectivement, par rapport au travail qu'il y a. Il faut bien qu'on sente le moment où on va intervenir, où on va dire un petit quelque chose. Mais on tente, effectivement, d'interpeller par notre présence. De toute façon, par notre présence, on interpelle les gens, mais même fugitivement de les interpeller. Après, avec des infirmières, en présence aussi de médecins, il arrive aussi qu'on intervienne en soins. C'est-à-dire que soit tout d'un coup, on vient nous chercher, on dit « Ah, mais vous ne voulez pas venir, les clowns, vous êtes là, on a un peu de difficulté là, avec un enfant à le piquer, est-ce qu'on n'essayerait pas avec votre présence ?» Alors maintenant, avec l'habitude et tout, on leur dit « C'est jamais gagné, hein. C'est pas parce qu'il va y avoir les clowns que l'enfant va se calmer ou que l'enfant va être moins angoissé, etc. » Mais on leur dit « Si vous êtes d'accord, on peut essayer, on peut essayer. » Alors là, vraiment, je dirais que c'est une sorte de... Voilà, il y a les infirmiers, infirmières ou médecins qui doivent faire leurs soins. Il y a nous, il y a l'enfant. Souvent, il y a une maman, il y a un papa. Je dirais que c'est un peu, comment dire, une danse entre rire, pleurs, cris, soins. Tout d'un coup, une marionnette qui arrive, une chanson, voilà. Assez souvent, quand même, c'est vrai que la présence des clowns peut faciliter un soin, peut faciliter une prise de sang, peut faciliter d'enlever un pansement, etc. Mais ce n'est pas magique. Malgré tout, il n'y a pas de magie.
Les plus grands aiment bien les clowns aussi. Est-ce que, pourquoi pas, vous intervenez également, de temps en temps, ponctuellement ou pas, chez les adultes?
Alors, les programmes avec les adultes, on intervient... Enfin, c'est eu arrivé qu'on intervienne au HUG, c'était pendant, la journée des malades, où on allait chez les adultes et tout, on faisait toute une tournée au HUG dans ces grands couloirs, ces chambres à 8, etc. On avait grand succès, mais voilà, c'était un événement qu'on fait. On l'a toujours en projet, mais pour le moment, on ne l'a pas développé. Par contre, on intervient avec des familles au foyer d'Anières, auprès des familles de migrants. Donc au TAD, ça ne fait pas tout à fait une année qu'on intervient. Et puis à Asnières, ça fait 2 ans. Donc là, on va à la rencontre, en fait. On se balade dans les couloirs, par exemple, des TAD. J'étais hier, qui sont quand même un lieu assez exigu, hein, quand on se promène clairement dans les couloirs, des TAD, à la rencontre, effectivement, des enfants, des mamans, des papas, des hommes seuls aussi, qui sont là. Et je dirais, de nouveau, c'est des rencontres assez... Il y a la surprise de voir les clowns. Je dirais qu'on crée de la surprise, on crée des sourires, des petits challenges entre eux et nous. C'est... Comment dire ? Il y a beaucoup, beaucoup d'accueil, beaucoup de moments assez incroyables dans ces lieux-là.
Alors justement, s'il fallait, c'est une question que je vous reposerai, je vous la pose maintenant pour que vous puissiez y penser, mais s'il fallait comme ça citer quelques anecdotes qui vous ont particulièrement touché, lesquelles seraient-elles, que ce soit au TAT ou pour en revenir à l'hôpital avec les enfants en pédiatrie, mais... Je me demandais également quels sont, si il ne s'agit pas bien sûr de hiérarchiser les moments, mais s'il y a des meilleurs moments, lesquels sont-ils ? Est-ce que c'est le moment où justement on se dit au revoir ? Alors quand on se dit au revoir, c'est un au revoir, c'est des fois un adieu, donc ça veut dire qu'on ne va peut-être pas se revoir, mais c'est le moment où l'enfant sort parce qu'il est guéri. J'imagine que là, il y a quelque chose qui se joue d'assez beau. Est-ce qu'il y a d'autres moments qui sont particulièrement... vifs, particulièrement touchants, lesquels sont-ils ces moments, disons, s'il fallait en mettre quelques-uns en exergue? De nouveau, je dis, c'est pas pour hiérarchiser, mais c'est pour voir, pour comprendre ce que votre action au sein des hôpitaux.
Alors, il y en a beaucoup, des moments. Je dirais que les moments, en fait, c'est des moments de jeu où tout d'un coup la magie opère. On ne sait pas trop pourquoi. On tente qu'elle opère tout le temps, mais il y a des moments qui nous touchent plus, quoi. Je raconte des fois cette histoire. C'était en fait au tout début d'Opicloun pour moi. Ça, je pense un enfant qui avait 7 ou 8 ans. Il avait une cochonnerie de maladie des os. Et il était en bout de piste. Il n'est plus là à ce jour. Et il était assez douloureux et tout. Donc on était en formation. Mais je m'en souviens comme si c'était hier, quoi. Et ce gamin, il aimait beaucoup nous voir. Il profitait beaucoup de la présence des clowns. Et il avait demandé à sa maman un marteau pour taper de foire, comme ça. Il avait une idée, en fait. Il avait une idée. Et une fois, on rentre dans la chambre avec ma collègue. On rentre, il nous montre ce marteau, il nous le donne et il nous fait comprendre qu'il va falloir taper le médecin quand il va venir. Il avait un médecin qu'il adorait, avec qui il avait un lien absolument super. Donc, voilà. Donc, on ressort de la chambre et tout. Le médecin arrive. C'était un médecin qu'on connaissait bien, avec qui on avait un très, très bon lien. Et forcément, tout le jeu va être que lui, il est de dos, nous, on est derrière. Et quand est-ce qu'on va taper ? Et l'enfant qui nous regarde, qui dit, nous, on n'ose pas quand même, parce que c'est le docteur. Oui. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et puis, on imagine que les clowns vont être mis dehors, etc. Tout ça. Et l'enfant qui nous fait des grands gestes pour allez-y, allez-y. Et effectivement, bien sûr, on va se préparer. Prêter au jeu, le médecin va se prêter au jeu, il va être par terre en criant et tout. Le gamin, il était mais heureux, et en tout cas on a su après qu'il avait raconté cet événement, je crois en présence d'ailleurs du médecin qui s'était relevé, hein. Mais voilà, à sa maman, et il était super heureux, je crois. Pourquoi ça me marque autant, c'est là de nouveau, c'est là où l'enfant prend le pouvoir, l'enfant dans cette circonstance, en fait, c'est lui qui crée le jeu. Nous, on est un passeur, en fait. Bien sûr, idéal pour lui, quoi, parce que aussi on peut se permettre de taper le médecin, pas tout le monde peut le faire.
Absolument. Donc, c'est tout à fait exceptionnel, on le rappelle.
C'est exceptionnel. Voilà, donc il faut... C'est vrai, là, quand vous posiez la question, nos relations avec les médecins et tout, bien sûr, là, il faut déjà avoir une bonne relation avec ce médecin-là et qu'on sache qu'il se prête au jeu et qu'il ne soit pas mis à défaut, ça, c'est sûr.
Quoi. Justement, parce qu'il arrive que vous... Comment dire, que vous interveniez un long moment dans avec les mêmes enfants, justement dans le cas de maladies terribles et de longue haleine. Est-ce qu'il se trouve que des fois vous faites quasiment un accompagnement dans les semaines, voire même dans les mois?
Alors oui, parce que quelque part, on vient deux fois par semaine dans la plupart des services. Donc, par évidence, pour des enfants qui sont longtemps hospitalisés, normalement, à moins qu'ils soient en soins, qu'ils soient au bloc ou comme ça, mais on va les voir deux fois par semaine. Et pour certains de ces enfants, c'est vraiment un rendez-vous, quoi. Voilà. Ils attendent et tout. Je pense à un autre aussi qui était, alors lui aussi très interactif, ils ne sont pas tous comme ça, mais lui effectivement, de nouveau aussi, il préparait des petits scénarios qu'il allait jouer au clown. et voilà, il y en a d'autres aussi qui nous attendent avec des piqûres pleines d'eau, avec la complicité des infirmières.
Excellent.
Voilà, il y a des choses comme ça, quoi. Mais effectivement, il y a certains enfants, quand on pense en polio, en oncologie, aussi en chirurgie, où il y a des grosses opérations, entre autres du foie à Genève. Donc, il y a vraiment des enfants qui attendent
le rendez-vous, j'imagine.
Et même pas des si petits que ça. Moi, je me souviens aussi d'un adolescent qui était en oncologie. Il attendait les clowns chaque fois et il se demandait qui ça allait être, puisqu'on tourne tout le temps. On est 15 maintenant, donc on ne sait jamais tout à fait qui va être là. Mais ce qu'il attend, c'est les clowns, c'est les opi-clowns, voilà.
D'accord, on va venir effectivement, après on va faire une petite pause, j'ai encore une question, ensuite on fera une petite pause musicale et puis ensuite on parlera plus à proprement parler de l'association, qui êtes-vous, de quoi avez-vous besoin éventuellement, qui peut vous rejoindre si vous cherchez des adjuvants, toutes ces choses-là. Pour en terminer dans ce premier bloc de questions, et vous, alors et les clowns, lorsque l'on ferme la porte et qu'on rentre à la maison et puis que l'on est seul avec son masque, en guillemets, que l'on a enlevé, comment est-ce qu'on se parle à soi-même? Est-ce qu'on a fait rire? On est, j'imagine, quand même satisfait, mais en même temps, on a assisté à des moments qui sont des moments dramatiques. On s'imprègne de ce qui nous entoure, certainement. Alors, comment ça se passe pour vous, les clowns?
Alors, bon, je dirais que avant de quitter l'hôpital, comme on travaille à deux, quelque part, et qu'on se connaît quand même pas mal bien, parce que c'est une équipe, je dirais, qui est assez ancienne. On travaille depuis... Il y a une bonne partie de l'équipe qui travaille depuis 10 ans ensemble. Donc, si vraiment il y a eu des moments difficiles ou qu'une des personnes a été touchée par une situation ou l'autre, on prend toujours le temps d'en parler entre nous, même si on n'a pas toujours les mêmes ressentiments, hein, parce que des fois, on est plus touché par une situation, moins par une autre. Alors, il y a ça. L'association aussi est très bienveillante à cet égard. Donc, on a des supervisions avec un psychologue, huit fois par année, donc toutes les 6 semaines, on a une supervision où, effectivement, c'est l'occasion de parler de nos ressentis, de travailler à l'hôpital, entre autres.
Préciser peut-être ce que signifie le mot supervision dans ce cadre-là.
Oui, alors, c'est une rencontre où tous les clowns, c'est un moment obligatoire, en fait, qui a été mis par l'association, où on se rencontre, les 15 clowns et un psychologue. Et notre manière de fonctionner, c'est qui a envie de prendre la parole sur un sujet, sur un autre, sur lui, sur sur ce qu'il a vécu ces derniers temps, sur comment il est touché par un enfant actuellement qui est hospitalisé. Et c'est l'occasion d'avoir un échange entre nous, je dirais, sous le regard et la connaissance bienveillante d'un psychologue, quoi.
D'accord. Très bien. Anne Lafranchie, merci pour cette première salve de questions, j'ai envie de dire. On fait une petite pause musicale, comme ça on prend notre souffle, on boit un verre. Et puis, juste derrière, eh bien, nous parlerons plus précisément de l'association en elle-même des Opicums de Genève, parce que ça a été effectivement, comme vous l'avez dit en début d'émission, créé à Genève en 94. Non.
Alors, 96, qu'on a fait les premières interventions.
Voilà, 96, au moment des premières interventions. Petite pause musicale et on revient juste derrière. Si tu souhaites, auditrice, auditeur, interroger ou faire un commentaire notre invité, eh bien tu le fais à l'adresse suivante info@libradio.org ou alors via la page Facebook de l'émission. C'est comme d'habitude, la comète à la banane. Allez, on y va juste après ça.
Je suis tellement jeune et belle, avec les cheveux longs, tous les délires m'appartiennent. Et quand je dis non, c'est non. C'est moi la fraîcheur future. Je construis pour demain. La belle et grande aventure. Alors je monte le son. Alors je monte le son. Et je